je vais vous dire une chose, c'est dire que ce qui se passe en moi actuellement, ce qu'on appelle dans notre jargon à nous, j'allais dire, je travaille avec l'Institut catholique de la Méditerranée, on appelle ça le dialogue intra-religieux. Oui. Qu'est-ce que c'est que le dialogue intra-religieux? C'est-à-dire que si c'est inter-religieux, c'est une tradition qui parle à une autre, une religion qui parle à une autre. On appelle intra-religieux quand les deux traditions spirituelles se rencontrent dans une même personne. Ce mot intra-religieux n'est pas de moi. Il est d'un prêtre qui s'appelle Panika. Et oui, Panika, donc, son père était hindou et sa mère chrétienne. Donc, il y a une rencontre entre deux traditions dans soi. Et cette rencontre n'est pas du syncrétisme, ne fait pas partie du syncrétisme. C'est plutôt une interpellation réciproque, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que chaque fois que la chrétienne catholique aujourd'hui confesse sa foi, la bouddhiste que j'étais la regarde et lui pose des questions. Et par exemple, actuellement, je fais très attention à ne pas toujours dire que Dieu est ceci, Dieu est cela. De donner mes définitions de Dieu. Parce que la bouddhiste, elle va me rentrer dans le lard, si on peut dire. Elle va me dire, mais écoute, tu dis que ton Dieu est ceci, ton Dieu est cela, c'est bien ton Dieu à ta taille. Attention, c'est bien toi qui as fait ce Dieu-là. C'est très dangereux. Il faut toujours dire que, actuellement, je ne dis pas le Dieu des Occidentaux. Quand j'étais dans le camp, j'appelle ce Dieu le Dieu des Occidentaux. Alors, il faut que je vous dise quand même que comment j'ai eu l'idée d'appeler ce Dieu le Dieu des Occidentaux. C'est que quand j'étais dans le camp, j'étais bouddhiste, bien sûr, et je n'aimais pas les chrétiens, cette époque-là. Moi, à l'âge de 11 ans, mon père m'a envoyé dans un pensionnat des religieuses pour que j'apprenne le français, parce que nous venons chaque année en France, mon père voudrait que je domine cette langue. Donc, il m'a envoyé chez les religieuses françaises. Et dans cette école, quand les élèves arrivent, on change le prénom. Mon prénom d'origine, c'était Chai Hun, ça veut dire lumière de nuage à l'aurore. En arrivant, la religieuse, les religieuses trouvent que c'est compliqué. C'est vrai d'ailleurs, elle a beaucoup de filles pour retenir. Donc, elle va me donner un prénom Véronique. Mais ce qu'elle n'a pas fait attention, que la fillette que j'étais à ce moment-là avait reçu une formation spirituelle. Là, faut vous dire, parce que d'habitude, la formation spirituelle n'est donnée qu'aux garçons, je vous dis, parce que seuls les hommes, ils peuvent. Mais moi, j'ai de la chance, parce que mon père, dans sa compassion envers moi, a trouvé que je suis une fille très intelligente, donc prête à devenir un homme. Vous voyez? Alors, donc, il m'a donné une formation spirituelle profonde. Quand les sœurs m'ont changé le prénom, j'ai dit que c'est pas mon prénom. Et chaque fois que les sœurs appelaient Véronique, Chai Hun ne répondait pas. Imaginez l'atmosphère. J'ai pas pu rester longtemps. Mon père m'a retiré de là et m'a mis dans une école de l'État français, le lycée Descartes, à Phnom Penh. Mais du coup, quand j'ai eu ma licence de philosophie, que je commence à enseigner la philosophie, je n'aimais pas les chrétiens. Je me demandais, mais qu'est-ce qu'ils venaient faire là, ces gens-là, dans notre pays? Le Cambodge a une religion, le bouddhisme n'a pas besoin de la religion des autres. Je disais ça. Et avec mes collègues, j'étais pas seule à penser ça. Avec beaucoup de collègues, nous avons formé une association pour aller chercher dans notre tradition d'origine des raisons philosophiques et théologiques qui vont nous permettre de lutter contre ce que nous appelions pompeusement l'impérialisme spirituel de l'Occident. Vous voyez, là, c'était à l'âge de 22 ans, et du coup, le bouddhisme n'était pas pour moi qu'une tradition de ma famille, mais c'était, je suis devenue une bouddhiste très convaincue, quoi, de conviction. Et ce qui a fait que ça m'a permis de connaître à fond. Mais une fois quand j'ai plus rien dans le camp de Pol Pot, je vais donc tourner vers Bouddha, vers le maître. Et je vais essayer de comprendre de ce qui m'arrive. Vous savez, quand on n'a plus rien, c'est toujours la force spirituelle qui va nous tenir debout. Et Bouddha va dire que tout ce qui est dans cette vie est appelé à changer, ce qu'on appelle la loi de l'impermanence. Rien ne dure éternellement dans le bouddhisme. Donc, ta vie aussi a changé. Tu es plus riche maintenant. Voilà. Tu vois, le karma, il est du côté bon, il a basculé du côté mauvais. Mais une fois qu'on a fait ce constat-là, comment il faut faire? Le maître va dire que quand tu as fait ce constat, il faut que tu gardes ton cœur dans le calme. Il faut veiller à ce que des sentiments mauvais ne t'envahissent pas. Mais c'est très logique. Un sentiment mauvais, ça vous amène à faire quoi? À poser des mauvaises actions. Et si vous posez des mauvaises actions, eh bien voilà, vous allez naître en crapaud. Bon. Mais ce que je ne savais pas, c'était ma faiblesse, tout simplement. Je ne pouvais pas garder mon cœur dans la sérénité. C'était que la haine et la révolte. Et qu'est-ce que je fais? Mais je vais encore me tourner vers ma tradition. Ma tradition me dit que si tu es faible et que tu as des sentiments mauvais en toi, mais construis un objet mental. Un objet mental, c'est un bouc émissaire. Et sur cet objet mental, tu balances dessus tout ce qui est mauvais en toi. Donc, je vais construire un objet mental et pour que cet objet soit vraiment vrai, je lui ai donné le nom. Le dieu des Occidentaux. Ça y est, vous voyez l'enchaînement. Et ben, pourquoi le dieu des Occidentaux? D'abord, l'Occident est coupable à mes yeux. La guerre du Vietnam, ça vient d'Occident, ça n'est pas né en Asie. Et puis le marxisme, l'idéologie des Khmer Rouges, ben, il est bien né dans la civilisation judéo-chrétienne, que vous vouliez ou non. Donc, l'Occident est bien coupable. Et ce dieu, il fait bien affaire, le dieu des Occidentaux. Et en plus, la tradition chrétienne dit que son pouvoir est sans limite, remplit ciel et terre. Ben, il est bien à ma taille, ma haine aussi remplit ciel et terre. Vous voyez? Donc, c'est vraiment un vis-à-vis. Voilà, donc je suis arrivée comme ça à ce dieu. Le dieu des Occidentaux, je l'ai nommé comme ça. Après, il y a la rencontre avec l'Évangile, après, il y a la rencontre eucharistique, tout ça. Bon, c'est trop long pour vous dire tout ça, mais pour vous dire que quand je suis devenue chrétienne catholique, je n'ai pas tout supprimé du bouddhisme. Et maintenant, je dis le dieu de Jésus-Christ. Et je fais attention à ne pas faire un dieu à ma taille pour que la bouddhiste ne me tombe pas sur la tête. Vous voyez? Donc, je dois faire attention à ça et à tous nos vocabulaires. Et nous disons trop de choses sur Dieu. Mon église a été très bavarde. Quelque part, il faut peut-être dire humblement qu'on n'en sait rien. Comme le pardon, par exemple, au lieu de faire toute la sauce, des recettes de cuisine et tout, mais le pardon est d'abord à demander. Le pardon n'est pas quelque chose, mon bien à donner. J'ai toujours à demander le pardon. Mais celui qui demande le pardon doit être prêt à essuyer le non. C'est pas indu, le pardon. C'est pas un dû. Là, bon, alors, je vais terminer avec vous, parce que lors de mon dernier voyage au Cambodge, je suis allée visiter ma pagode. la pagode, c'est le temple, le monastère bouddhique. Là où il y avait mon parent, qui était le chef des bonzes de cette pagode. Et vous savez que dans chaque pagode, nous avons des stupas. Ce qu'on appelle des stupas, ce sont des tombeaux de famille. Donc, je suis allée visiter cette pagode, tout ça. Bon, je trouvais que ce stupa à la famille, ben, c'est tout détruit, c'est de ma famille. Voilà. Mon père voudrait faire un stupa utile, voilà, dans sa tête. Je l'explique. C'est-à-dire qu'au lieu que de mettre les cendres de ses parents, il a fait un bâtiment où il pouvait loger des étudiants qui viennent faire des études. Il y a deux chambres, et comme il était un exploitant forestier, donc il avait beaucoup de bois, alors c'est tout en bois de luxe, mais ça a été rasé complètement.